Chapitre 40. De l'autre côté de la muraille faussement infranchissable, s'ouvrait un réseau de canyons coupés du reste du paysage comme s'il appartenait à un autre monde. S'enfonçant sur le haut plateau, plusieurs défilés parallèles formaient un labyrinthe qui semblait sculpté par la main d'un géant. Face à ce spectacle, les trois voyageurs eurent pour de bon l'impression d'être dans un autre monde. Le canyon principal, au centre du réseau, se révéla très large. Un cours d'eau y serpentant, il abritait une végétation luxuriante. Dans ce qu'il fallait bien nommer une vallée, des moutons paissaient et des céréales poussaient dans des champs clôturés. Au pied des parois rocheuses, on avait aménagé des jardins potagers où des courges et des haricots se développaient dans des conditions idéales. Dans les vergers, au bord du cours d'eau, la plupart des arbres étaient en fleurs. Autour de leurs ruches, des abeilles bourdonnaient, ajoutant leur musique à celle d'une douce brise. Des centaines de personnes travaillaient dans les champs, s'occupaient des troupeaux ou grimpaient le long des parois de pierre en empruntant de grandes échelles. Un monde prospère, grouillant d'activité. Sur les parois, dans des niches naturelles abritées par un surplomb rocheux, on avait érigé des bâtiments en briques ou en adobe. Alors que les plus petites cavités abritaient deux ou trois maisons, les géantes constituaient une mégalopole dont les différents quartiers étaient reliés par des passerelles. Au fond de la vallée, sur une grande muraille rocheuse, une immense grotte contenait une forteresse. La bibliothèque magique, comprit Nietzsche, très différente de tout ce qu'elle avait imaginé. Surplomb du monde était bel et bien une citadelle, mais d'une incroyable beauté. Malgré ce souci d'esthétique, ses différentes ailes, certaines hautes de 5 étages et d'autres de 10, étaient conçues pour résister à toutes les attaques. Taillé à même la paroi, un étroit chemin sinueux donnait accès au portail principal. Pour s'y engager depuis le sol, il fallait emprunter des échelles de cordes et de bois. Les yeux ronds, Nathan eut besoin de quelques minutes avant de retrouver son bagout coutumier.
« Ça me fait penser au palais des prophètes, » dit-il. « Et sa bibliothèque, quel trésor c'était !»
Sur le visage de Bannon, Nietzsche reconnut l'émerveillement qu'il affichait à Tanimura, même après avoir failli se faire égorger.
« Le palais des prophètes était aussi grand ? » demanda-t-il.
« La taille, fiston, est une affaire très relative. » La muraille rocheuse et la grotte magnifient ce complexe. En réalité, le palais était 10 fois plus grand.
10 fois? Douce mère la mer, c'est impossible.
Assez de comparaison, coupa Nietzsche. Surplomb du monde est une réalisation impressionnante qui a le mérite d'être encore debout. Avec un peu de chance, nous y trouverons ce que nous cherchons sur le buveur de vie.
Par cette journée claire et limpide, plusieurs résidents de la vallée avaient vu les visiteurs émerger de l'étroit passage. Deux garçons qui travaillaient dans un jardin potager, à mi-hauteur d'une paroi, sifflèrent pour donner l'alerte. Dans cet environnement rocheux, le son s'amplifia et se répercuta longuement jusqu'à ce que d'autres sifflets lui répondent. Alors que Nietzsche aurait préféré prendre le temps d'étudier le site et d'évaluer ses défenses, sans parler d'identifier d'éventuelles menaces, Chardon fit de grands gestes aux gens qui approchaient.
« Bonjour !» cria-t-elle. « Nous sommes des étrangers et nous voulons consulter vos archives !»
D'autres sifflets retentirent. Dans la forteresse, des dizaines de personnes apparurent derrière les fenêtres ou sur le pas des portes. Nietzsche ne put pas retenir Chardon, qui fonça comme une folle. Croyait-elle qu'on allait les accueillir à bras ouverts? Les poings sur les hanches, la gamine s'adressa aux inconnus à l'approche.
« Nous voulons vaincre le buveur de vie. J'ai avec moi une magicienne, un escrimeur courageux et un très vieux sorcier. »«
Très vieux, pas d'apparence, » corrigea Nathan, coquet. Et je suis aussi un prophète, encore que, en ce moment, je sois plus proche d'un rien du tout. »
Il se tapota la tempe.
Mais le savoir est là-dedans.
Ils sont là pour découvrir un moyen d'enrayer la balafre, ajouta Chardon.
Nathan regarda le petit groupe qui approchait.
Bien le bonjour. Il paraît que vous avez des archives magiques, des connaissances qui pourraient nous aider à vaincre le monstre qui a dévasté une vallée.
Au point où en étaient les choses, Nietzsche décida de jouer carte sur table.
« Nous cherchons des outils et des armes pour écraser le buveur de vie. C'est vital. »«
Pour ça, faudra voir Simon. »
dit un paysan d'âge moyen vêtu d'une tunique couverte de petits fragments d'épi, logique au moment de la moisson.
« C'est notre conservateur en chef !»
L'homme désigna la forteresse. Sur l'étroit chemin, en rang d'oignon, une dizaine de personnes descendaient vers la vallée, sans doute pour rencontrer les visiteurs.
« Et Victoria ! Il faudra aussi qu'il voie Victoria !»
ajouta une femme au chignon de cheveux blonds tenu par un fichu gris. Les hanches larges et les mains calleuses, elle avait des biceps plus volumineux que ceux de Bannon et de Nathan réunis.
« C'est elle qui décide quelles connaissances sont préservées par les mémoristes !»
Le paysan épousseta sa tunique et glissa entre ses dents un fragment d'épi.
« Ne va pas si vite. Tout dépend du genre d'information qu'il cherche.
Nous n'avons plus vu d'étrangers ni d'érudits extérieurs depuis des années !»
dit un berger écarlate à force d'avoir couru pour se mêler à la conversation.
« Plus depuis que la balafre a détruit la vallée, en tout cas !»«
Les érudits avaient besoin de sang neuf !» dit la solide matrone. « Ici, personne n'a trouvé le moyen de neutraliser le buveur de vie. Nous avons besoin d'aide. »
« Surplomb du monde a été protégé par un camouflage pendant des milliers d'années, » ajouta le berger. « Même si le sortilège s'est dissipé, les âmes de nos ancêtres viendraient nous tourmenter si nous distribuions nos connaissances à tous les étrangers débraillés qui viennent les demander. Nous prenons garde à ne jamais admettre trop d'érudits extérieurs.
« Nous sommes ici pour vous aider, » dit Nietzsche.
« Et nous ne sommes pas si débraillés que ça, » ajouta Nathan, vexé.
« Moi, je suis pas une étrangère, » souligna Chardon. « Il y a un an, je vous ai observé et vous ne m'avez pas remarqué. Sachez-le, je suis la dernière survivante des sources de Verdun. »«
Jamais entendu parler, »
marmonna le berger.
« Parce que vous êtes resté enfermé trop longtemps dans cette vallée, » s'écria Chardon. « Mais le monde existe, que vous le vouliez ou non. Il est en train de mourir, et vous n'en savez rien. »
Nietzsche tapota l'épaule de la gamine pour la calmer.
« Nous sommes venus vous aider, » répéta-t-elle. « Avec les bonnes informations, je pourrais peut-être vaincre votre ennemi. »« Et régénérer la vallée, » insista Chardon. « Mes amis peuvent le faire. »
Sur ces entrefaites, les érudits en tunique longue venant de la forteresse rejoignirent le petit groupe.
« Simon, ces gens arrivent de l'extérieur, » dit le paysan. « La fillette les a guidés, » ajouta le berger. « Elle prétend venir d'un endroit appelé les sources de Verdun. »«
La femme est une magicienne, » précisa la matrone, « et le vieux type un sorcier. »«
Un prophète aussi, et pas si vieux que ça, »
s'indigna Nathan.
« Victoria, »
dit un homme qui s'était tu jusque-là,
« regarde bien. » « C'est une magicienne.
Ils veulent consulter nos archives, »
précisa le berger.
« Nous avions besoin de sang neuf et... »
Alors que Nietzsche se perdait dans ses bavardages, un homme se détacha du groupe d'érudits.
« Je suis Simon, conservateur en chef des archives de Surplomb du Monde. C'est moi qui supervise l'enregistrement et le classement des connaissances entreposées ici par la sagesse des anciens. »
Nathan ne cacha pas sa surprise.
« Conservateur en chef, vous semblez bien jeune pour un tel poste. »
Les cheveux noirs en bataille, ce qui ne le dérangeait pas, Simon semblait au milieu de la trentaine. Pour se vieillir, il arborait un semblant de barbe qui faisait surtout négliger.
« Je suis assez vieux pour être compétent, » répondit-il sèchement, « et j'ai commencé tôt. Il y a 20 ans, je suis arrivé ici, un prodige emprunté à un des villages voisins.
« Le camouflage s'est dissipé il y a seulement 50 ans, »
dit une solide femme qui devait être Victoria. Ses cheveux bruns grisonnants, tressés et enroulés autour de son crâne, elle n'avait quasiment pas de rides, à part autour des yeux, et ses joues roses lui donnaient un air sain et en bonne santé. Sa voix douce évoquait celle d'une gentille grand-mère dans un conte pour enfants, avec un aspect coupant quand même.
« Nous veillons sur Surplomb du Monde depuis la fin des grandes guerres, » dit-elle. « Depuis peu, nos archives sont de nouveau ouvertes aux extérieurs. Sous les ordres de Simon, nos érudits ont abattu la moitié du travail d'enregistrement et de classement. Cela dit, mes mémoristes pourront peut-être vous dire ce que vous voulez savoir en piochant directement dans leurs souvenirs.
Si vous nous convainquez de vous aider.